La Fontanelle.
Fragments sensibles et politiques.
Je suis un oiseau et je vole au-dessus de la cité.
Je vole.
Je suis un aigle marron et blanc et j'ai une bonne vue, un petit bec et de petites narines. J'ai une casquette à l'envers, un pull Adidas et des chaussures zoom.
Les chaussures zoom.
J'ai des lunettes de soleil et les dents comme un humain, un peu tordues et triangulaires. J'ai des bras musclés, des ailes et des serres.
Des ailes.
Un peu comme un griffon d'or qui cracherait du feu. Je suis un blédard avec une cape rouge. Je m'appelle Bob Eagleman, un oiseau super-héros qui lutte
un
contre les maléfices et qui sauve les pauvres dans la rue.
Je vole et j'aperçois le stade de la cité et les herbes autour du parc là-bas. Quand je passe au-dessus des toits, je vois un petit chapiteau blanc avec un atelier d'écriture où des enfants racontent mon histoire. Je vois la butte, le fromage, le truc pour s'entraîner au Yamakasi et à la muscu. L'école, Joliot Curie et Paul Angevin.
Sur les toits, il y a des cheminées, des antennes qui fonctionnent à l'énergie solaire.
À l'énergie solaire.
Je vois des travailleurs avec leurs perceuses qui font des réparations. À cause de guetteurs qui jettent les canettes,
des canettes, papiers,
des feuilles,
des lunettes,
des casquettes,
des gants de boxe.
Dans le ciel, je ressens des frissons, de l'adrénaline et du plaisir. Je vole et je tombe
Je vole
à nouveau à travers les bâtiments. Quand je remonte vers le ciel, je suis à la verticale, comme si j'étais debout. Mais je vole.
Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ce soir pour la présentation de notre recherche-création Microcosme, Murmure d'une cité, et l'édition qui l'accompagne dans le cadre des journées du patrimoine et du matrimoine, ça va de soi, car comme vous le savez, tout ne vient pas des pères. Voilà, ça c'est dit. On vous a tous réunis avec nous pour vous raconter l'aventure qu'a été ce projet. à la fois de manière sensible, avec des espèces de moments de stupeur, des performances, vous venez d'en entendre une, et une installation plastique, sonore, vidéo, et puis un peu plus frontale avec nos invités. On va faire cette expérience avec vous et avec les trois équipes qui ont œuvré à ce projet. Celle des allumeurs, qui est à l'origine du projet, celle des vaillants journalistes et auteurs et autrices du média L'Insatiable, Art Principe Actif, et puis nos camarades artistes expérimentateurs sonores de la web radio La Fontanelle, Sensible et Politique. Et nous sommes accompagnés ce soir de deux habitantes de la cité Émile Dubois qui nous prêtent main forte. Alors ce projet Microcosme, il a démarré en début d'année 2020 avec notre envie de faire un travail sur l'histoire d'une cité à Aubervilliers avec ses habitantes et ses habitants. Car on considère qu'il n'y a pas de geste artistique qui tienne sans un dialogue actif avec l'autre, en expérimentant donc d'autres modes de relations possibles dans une société qui, on peut le dire, est plutôt dans l'ensemble assez hostile. Disons que nous sommes donc dans une pratique qui est à la fois une pratique de création, puisque nous sommes des artistes forcément, mais aussi d'observation, d'analyse et d'engagement sur le terrain à dimension militante. Alors, ceci dit, pourquoi Aubervilliers et pourquoi la cité Émile Dubois ? Pour la petite histoire, les allumeurs, nous sommes résidents du lieu de fabrique culturel autogéré Alberti-Villarien, la Villa Médici. Et forcément, la merveilleuse Aubervilliers et son tout monde est notre espèce d'espace de travail de prédilection. Pour ce qui est d'Émile Dubois, on voulait travailler sur un site qui avait un aspect patrimonial, slash matrimonial, de sorte à la fois à retracer le vécu de ses habitants et de ses habitantes, en jouant sur l'interaction entre l'individu et le commun, et en retraçant l'épopée que représente l'histoire d'un quartier, avec ses évolutions urbaines, ses vagues d'immigration, ses personnages marquants, ses moments cruciaux. Et sur un territoire qui est en plus historiquement une terre d'accueil. Émile Dubois, c'est une cité qui a été construite dans les années 50, donc ça nous permettait d'avoir un prisme temporel qui était assez large en fait. Cette cité, elle était aussi également engagée dans un plan de rénovation urbaine, ce qui nous permettait aussi de recueillir la parole de celles et de ceux qui ne l'ont pas habituellement, en réfléchissant avec eux à des questions qui sont liées à l'amélioration de l'habitat et aux conditions de vie dans le quartier. Alors, bien sûr, on ne pensait pas qu'on allait dire toute la vérité sur la cité Émile Dubois, mais plutôt de transformer la perception qu'on peut avoir d'une certaine réalité. Et ça, cette chose, ça s'est fait à l'intersection du regard que l'on induit et des gens et des personnes qu'on a rencontrées et leur perception sensible des choses, la vérité singulière de chacun en fait. Alors il y avait donc quand même cette question de la rénovation urbaine qui est complexe à aborder pour différentes raisons. D'abord la gentrification qu'elle implique, la consultation qui est plus ou moins à l'écoute des habitants et des habitantes. Et puis, c'est vrai que la rénovation urbaine, elle est souvent liée à la destruction potentielle de la mémoire et d'un écosystème par le biais de la démolition d'immeubles, en fait. Alors, Microcosme, c'était pour nous une manière de prendre parti dans le débat, et notamment sur les questions de transition urbaine et d'en donner une autre réalité, notamment celle des habitantes et des habitants. Et c'est donc forcément un travail qui est lacunaire, qui est incomplet, parce que la réalité des choses, elle est plurielle. Elle est très différente en fonction des lunettes qu'on porte, de là où on se place, de l'angle de vue. La réalité, elle est très différente pour un habitant qui va avoir son habitat qui va être détruit et pour un bailleur social ou pour un représentant de ce qu'on appelle les services de la politique de la ville ou pour un représentant de la municipalité ou de pleine commune. On peut dire qu'en fait, c'est un arrêt sur image, cette édition, ce microcosme, avec une tentative certaine de révéler ce qui est invisible en fait à l'œil nu. Alors, avec les trois confinements qu'on a essuyés, autant vous dire que le projet ne s'est pas fait sans mal. Alors, du coup, la majorité de ces interventions, elles se sont faites dans l'espace public, contre vents et marées, par canicule, etc. Et je dois dire qu'il y a eu une grande part d'improvisation. Bon, il se trouve que l'improvisation nous est chère, mais voilà, il faut être honnête avec ça. Et là où nous pensions travailler au départ avec une trentaine de personnes, on a rencontré, rien que pour l'édition, en fait, plus de 180 personnes. Donc au regard de cette cité des 800 logements, c'est assez peu en fait, mais au regard de nos moyens, c'est beaucoup. Alors on a monté des espèces de brigades vagabondes, interstructures, la fontanelle et les allumeurs, dans le quartier, munis de micros, de carnets, de stands de fortune au pied des bars. Et je dois dire qu'on a pas mal tâtonné les premiers mois et on a croisé toutes sortes de jeunes. Toutes sortes de gens, des jeunes, des plus vieux, des pas contents, des en colère, des plus optimistes. Et dans ce contexte, on s'est trouvé, il faut bien le dire, un peu en porte-à-faux ou entre l'enclume et le marteau, avec d'un côté la découverte d'une réalité de terrain de ce qui était la rénovation urbaine, et notamment du point de vue des habitants, et puis à travers les lectures qu'on avait pu faire, à travers aussi les acteurs des institutions, nos convictions politiques, et de l'autre, des institutions dont certaines nous financent et qui sont aussi acteurs de cette rénovation urbaine. Tout ça pour vous dire que c'était sport, en fait. Pour faire court. Voilà. Puis est arrivée l'équipe de l'Insatiable, qui a rencontré les institutions, des historiens, des acteurs de terrain, des structures culturelles, et qui a fait tout un travail analytique qu'on retrouve donc dans l'édition. Et c'est donc ces fragments de vie qui constituent l'édition. Cette année, en 2021, on a poursuivi cette recherche avec un autre médium qui nous a semblé peut-être plus accessible qu'une revue. Et on a fait de longs portraits d'habitants sous forme de podcasts expérimentaux en lien avec l'actualité du quartier et du territoire. Alors, on a par exemple, c'était notre premier podcast, fait un tour de destruction partielle des Jardins des Vertus et toute la mobilisation citoyenne que ça a impliqué, celle de la place des femmes dans l'espace public, celle de la mémoire du quartier. Voilà, je vais donc passer la parole à Nicolas Roméas, qui est le directeur de rédaction de l'Insatiable, qui a contribué donc à ce projet et qui est le grand spécialiste devant l'éternel des questions art et société.
Devant l'éternel. C'est vraiment la journée du patrimoine. Avec la revue que vient d'évoquer Zaza, pendant un peu moins de 25 ans, on a essayé par tous les moyens de mettre en valeur l'idée qu'il n'y a pas de geste artistique sans pensée collective, sans rapport à un lieu, sans rapport à un environnement, sans rapport avec une histoire. Autrement dit, on a essayé par tous les moyens dont on a pu disposer, de montrer que l'art est un véritable outil pour faire entendre des choses que le langage habituel ne permet pas toujours d'entendre, et surtout pas le langage des chiffres, qui est celui qu'on entend le plus souvent maintenant. On a rencontré des équipes artistiques qui partagent les mêmes préoccupations, qui souvent ne sont pas tellement soutenues. Ce travail qui pourrait ressembler, si vous voulez, à ce qui se passe sous terre, aux nappes phréatiques qui irriguent le sol, qui permettent à la terre d'être nourrie et qui ne sont jamais finalement ce dont on parle. Ça, c'est un des aspects des choses. L'autre aspect, c'est que ce travail de fourmi, ce travail dans l'ombre, c'est ce qui maintient un certain degré de vigilance culturelle chez tout le monde. C'est-à-dire que si cette volonté de traduire par des symboles et non pas par de la quantité, et non pas par des chiffres, mais par des symboles, c'est-à-dire dans un autre langage, dans un autre univers que celui avec lequel on nous assène en permanence qu'il faut voir le monde et qui, d'une certaine manière, produit des choses qui risqueront un jour ou l'autre d'être monstrueuses comme le Grand Paris. Si nous oublions le côté absolument vital, hein, c'est pas seulement beau, touchant, etc., c'est vital de ces équipes, du travail de ces équipes, on est petit à petit en train, là je vais faire la version pessimiste, après je ferai la version optimiste, on est en train de perdre simplement l'alphabet même qui nous permet d'exprimer autre chose que cette espèce de logique dominante du gagnant. Mais dans ce pays-ci, il se trouve qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires comme l'éducation populaire, comme vous le savez, je pense tous, au niveau de l'État, au niveau du ministère de l'Éducation nationale après-guerre, comme les stages de réalisation, qui sont des choses absolument extraordinaires, qui donnaient la possibilité à des gens qui n'étaient pas des artistes d'expérimenter le travail artistique une fois au moins dans leur vie, pour ne pas être simplement des spectateurs, pour ne pas être que des consommateurs, mais être des acteurs également, et c'est peut-être la condition d'avoir été au moins une fois dans sa vie un acteur de l'art pour apprécier ce que c'est que l'art réellement. C'est-à-dire quelque chose qui est partagé par absolument tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a rencontré la Villa Medici à Aubervilliers et Zaza Mercury et les Allumeurs. Parce que ce sont des gens qui, quoi qu'il arrive, et même si ça devient impossible, continueront à faire ce à quoi ils croient, ce qui est aussi notre cas.
Alors, on a construit cette rencontre avec les personnes et les journalistes qui pouvaient être parmi nous ce soir. Et on a choisi une espèce de principe qui est celui de remonter le temps, en commençant par l'histoire de cette cité, sa mémoire. Puis on a rencontré aussi plusieurs habitants et habitantes qui habitaient ici depuis plus de 60 ans. Donc voilà. Alors, cette cité des 800 logements, elle est devenue Émile Dubois en hommage à son maire, Émile Dubois, donc, qui en a impulsé sa construction en 1958. En fait, la construction de cette cité, elle a débuté en 1955 sur d'anciens terrains de culture légumière. Donc, il y avait quasiment rien à démolir. Mais ce n'était pas le premier grand ensemble qui avait été construit. Il y avait déjà la cité du Pont Blanc qui est devenue la cité Charles Tillon. Mais c'était néanmoins les premiers HLM, en fait, et les premiers grands ensembles. Et la cité Émile Dubois, elle a été construite pour loger des ouvriers de la Seine-Saint-Denis, parce qu'à l'époque, c'était un territoire qui était encore fortement industrialisé, et c'était des ouvriers qui étaient en partie immigrés, que la France a fait venir pour de la main-d'œuvre à moindre coût. Et donc, les gens qui ont été logés dans cette cité Émile Dubois, c'était souvent des personnes qui arrivaient de cités d'urgence, Donc, pour eux, c'était une véritable ascension sociale que d'arriver dans ces logements, de pouvoir bénéficier du confort moderne, sans avoir les corvées de charbon pour se chauffer, avec des sanitaires, etc. Voilà. Et puis, les années ont passé et la cité Émile Dubois a commencé à avoir du plomb dans l'aile. Notamment en 1984, où une première réhabilitation va voir le jour, mais d'un genre qu'on ne pourrait plus imaginer de nos jours. Et Carlos Semedo, qui a été le directeur de la vie associative à Aubervilliers, il a fait partie de cette expérimentation. Bon, Carlos, tu vas nous en dire un peu plus.
Oui, bonsoir. Donc, Carlos Semedo, donc, en 1983... j'étais arrivé à Aubervilliers depuis très peu de temps et je travaillais à l'époque dans les services jeunesse de la ville. J'étais directeur d'une MJC dans le quartier de la Villette, un quartier qui venait juste là d'être rénové. Vous avez vu le résultat, ces tours, etc., avec 18 étages. J'ai participé à quelques cercles de réflexion locale sur comment on vivait à Aubervilliers, comment modifier, comment changer cette ville à l'époque déjà. J'ai commencé à réfléchir avec Marie-Hélène Baquet, qui à l'époque était étudiante en architecture, et avec Patrice Luthier, qui était lui aussi étudiant en architecture, et puis quelques personnes de l'OPHLM et de la ville d'Aubervilliers, en particulier une personne qui s'appelle toujours Louis Quétier, qui a été directeur de l'office HLM d'Aubervilliers et qui était quelqu'un qui avait une grande vision sur les questions de logement social. Et à chaque fois, on butait sur cette chose, c'est que ce que tu viens de décrire, Zaza, des années 50-60, une ville en progression, on va dire comme ça, globalement en progression sociale, c'est les 30 glorieuses, hein, ce n'est pas seulement Aubervilliers, mais toutes les villes industrielles, ouvrières, etc., vivaient cette période fabuleuse où tout devenait possible demain. Les gens venaient de débarquer dans des logements aérés, chauffés, l'eau à tous les étages, l'eau potable dans les robinets, etc. Et puis la situation était accompagnée par le plein emploi, surtout, et donc la possibilité de se projeter dans des lendemains heureux. Et puis il y a eu les années 70, peut-être que les gens à l'époque ne s'en apercevaient pas, mais les années 70 ont radicalement changé Aubervilliers, et pas que Aubervilliers. Aubervilliers a perdu ses industries. D'abord, les grandes industries sont parties, sont fermées, ont été délocalisées. Et puis, il y a eu tout le maillage. C'est surtout ça qui touchait Aubervilliers. Ce n'était pas forcément que des ouvriers des grandes industries de métallurgie ou de cosmétiques. À l'époque, c'était déjà plus ça. C'était un maillage de petites et moyennes entreprises qui couvrait tout le territoire et qui assurait avant le plein emploi et un emploi de proximité. Et là, tout ça, mais d'un effet domino, est parti en quille très vite et beaucoup de monde a quitté Aubervilliers. Je ne vais pas parler de toute la ceinture industrielle du nord de Paris, mais Aubervilliers en particulier. Ceux qui ne sont pas partis, c'est qu'ils ne pouvaient pas partir la plupart du temps, malheureusement. Ce n'est pas un choix de vie, c'était une impasse. Leur métier n'était pas forcément recyclable. Les industries qui fermaient n'étaient pas forcément relocalisées, pas très loin d'ici, de manière à permettre des transitions dans leur vie. Les personnes étaient un peu sans boussole et sans horizon. Et en plus, dans ce quartier, il y avait eu deux événements majeurs qui conditionnaient la vie des gens. Un plutôt positif à l'époque, c'était l'arrivée du métro ligne 7 au fort d'Aubervilliers. Ça, c'était énorme, parce qu'on arrivait plus vite à Opéra qu'à la mairie d'Aubervilliers, à partir du moment où il y avait le métro fort d'Aubervilliers. Donc les gens nous le disaient, ça, quand on est arrivé ici. Ça, c'était énorme, c'était positif. Ça permettait une fluidité professionnelle nouvelle. Mais il y avait d'autres choses, c'est qu'on venait de construire, on commençait à construire cette cité toute neuve à l'époque, qui a maintenant un peu un goût délavé. À l'époque, elle était flamboyante, la Maladrerie. Tous ceux qui, y compris à Émile Dubois, avaient les moyens financiers de se payer des loyers un peu plus chers, ont migré vers la Maladrerie. et une espèce d'élite locale d'Aubervilliers venait habiter ici. Il y a des ateliers d'artistes au rez-de-chaussée, il y a des jardins à tous les étages, et il y a une espèce d'aristocratie locale qui s'installe à la Maladrerie dans les années 70. Et ça, c'était juste à côté, c'est-à-dire que les gens de la Maladrerie traversaient tous les jours, plusieurs fois, ce terrain un peu bizarre, un peu pauvre, la cité Mille-du-Bois, pour aller au métro. Donc d'un côté l'arrivée du métro, de l'autre côté l'arrivée de la Maladrerie avec l'exode de quelques... Et puis avec la désindustrialisation, il y a eu aussi une casse, une réelle casse dans toute l'organisation sociale. C'est les organisations de gauche communiste à l'époque qui avaient à peu près le rôle d'animateur des quartiers populaires qui se dégringolent. Sont beaucoup d'associations. À l'époque, il n'y avait pas la même fluidité qu'aujourd'hui pour créer une association. C'était encore une chose un peu sophistiquée de créer une association. Il fallait des locaux, des responsabilités, etc. L'allégeance des élus politiques, etc. Donc, voilà, c'était devenu très compliqué. La cité Mille-du-Bois avait vieilli, les murs, mais les gens aussi, et des impasses sociales, de la pauvreté, quelquefois de la misère. Donc Mille-du-Bois était devenu un peu une cité en déperdition dans la ville d'Aubervilliers, avec une très mauvaise image. Voilà, rien quasiment de positif. Il n'y avait plus de pelouse dans les jardins à l'extérieur, il n'y avait plus de... enfin voilà. Et donc on a quelqu'un à l'office à l'époque, à l'office et à la ville d'Aubervilliers, qui a pris un peu la conscience de la gravité de cette situation, qui a décidé de mettre en place une équipe. Alors il fallait être jeune et tête brûlée pour s'y mettre. Nous sommes trouvés la dream team qu'il fallait. Moi j'avais quelques références, non pas d'urbanisme, mais de faire la révolution au Portugal avant de venir en France. J'avais travaillé aussi sur la rénovation de quartiers populaires à Porto avec des étudiants d'architecture de l'université et des leaders politiques. Donc j'avais à peu près une notion de comment on anime politiquement un processus de rénovation. Et à l'époque, on ne disait pas rénovation, on disait réhabilitation. Parce que pour nous, ce n'était pas uniquement rénover les murs ou les façades ou les pelouses, c'était réhabiliter l'image de la population qui était dans cette cité, réhabiliter la cité.
On était un peu à la campagne sans être à la campagne parce qu'on avait quand même pas de verdure, plus de verdure qu'à Paris. Bon, à Paris, il y a des grands parcs, mais il y a quand même plus d'immeubles. Nous, on a de l'herbe, on a des arbres, de l'herbe des arbres, donc... C'était un petit peu la campagne ici. Il y avait encore les maraîchers à l'époque. Maintenant, il n'y a plus un seul maraîcher. À côté de chez nous, il y avait une ferme où les gens allaient chercher du lait et des fromages. Du lait et des fromages.
J'aimerais bien que tout le monde vive dans les arbres avec plein d'animaux. Il y aurait une salle de bain où on pourrait dessiner sur les murs parce que je m'ennuie dans la douche. Avec une baignoire en plus, je transformerais le sol en piscine. Comme ça, les maisons auraient les pieds dans l'eau.
Les pieds dans l'eau ?
À Alors, on ne peut pas aborder la question de la mémoire d'Aubervilliers sans parler de la culture, ou plutôt des cultures, car à Aubervilliers, c'est historiquement un lieu d'expérimentation privilégié pour l'art, considéré comme un outil politique. Cette histoire d'Aubervilliers, elle croise, comme le disait tout à l'heure Nicolas, celle de l'éducation populaire et de la décentralisation culturelle, avec des figures comme celle de Jacques Ralite ou de Gabriel Garand, par exemple. Nathalie Nkorvaya, qui est née à Aubervilliers, qui y a vécu, qui a grandi, est une actrice culturelle de la ville incontournable. Nathalie, je vais te laisser la parole pour que tu nous racontes, pour que tu nous racontes tout ça.
Oui, donc moi j'ai été bercée dans cet engouement. On avait toutes les audaces, on a bénéficié de cette réhabilitation de la cité Émile Dubois, et j'ai habité pendant 22 ans à la Maladrerie. J'habitais juste au-dessus de cet espace, et pour moi c'était assez fabuleux. Ça nous donnait de l'audace. Ils ont réhabilité la maison de jeunes Émile Dubois, donc parce qu'avant c'était un AGECO qui était dans le square, et où j'ai vu des choses assez incroyables comme Jamel Allam, enfin des concerts. Il y avait une générosité, il y avait une solidarité qui était assez incroyable. Et donc, on a fondé l'atelier Rencontre Théâtre, et j'ai eu la chance d'avoir des jeunes assez extraordinaires. Et ça a été une aventure collective qui dure encore, comme le dit Zaza. Mais le hall de la maison de jeunes est devenu assez petit, et en tout cas, c'était un lieu de passage. Et donc, quand cet équipement a été construit, on a pu monter un vrai spectacle, le spectacle de Boris Vian, je me rappelle très bien, L'Écarissage pour tous, avec les forces vives et les acteurs du territoire. Il y avait un centre d'art plastique qui nous a aidés à faire les décors, il y avait un club de parachutistes qui nous a expliqué un petit peu comment on sautait en parachute pour des habitants de tous âges. Et on a fondé, donc, après avoir vécu cette aventure collective, la compagnie Étincelle, dans des locaux un petit peu en dehors de la maison de jeunes, parce qu'on avait besoin, le théâtre nécessitait un petit peu un lieu de répétition qui n'était pas un hall où tout le monde passait. Mais dans cette maison de jeunes, il y avait un atelier vidéo, il y avait un atelier de montage même, hein, et on réalisait des films. Enfin, il y avait cette espèce d'engouement de donner la parole à des gens, une jeunesse qui arrivait, qui avait le bac, qui avait plein d'envie, très multiculturelle. Cet espace a permis de montrer un travail précieux et fragile fait par des amateurs qui avaient travaillé une partie de l'année et qui pouvaient le montrer dans des bonnes conditions. La première année, on a monté un spectacle dans la maison de jeunes. Le décor est tombé. Enfin, ça a été compliqué. Et ça nous a donné des ailes, quoi, d'avoir une vraie salle polyvalente. Il y avait de l'audace et de l'envie dans une jeunesse qui n'était pas seulement dans le consumérisme, mais qui avait aussi envie d'inventer l'avenir. Le théâtre de la commune, qui aurait dû être un petit peu un accélérateur au niveau de la transmission, c'était un petit peu dans leur cahier des charges, mais on a construit cet espace aussi parce que on n'avait pas le droit de citer là-bas. On nous invitait comme spectateurs. Il n'y a pas eu cette main tendue. Et donc, heureusement qu'il y a eu des équipements. Parce que cette aventure collective est quand même sortie des pépites, comme Thomas Pithiot, qui est maintenant auteur, chanteur, compositeur, interprète depuis un moment. Vanessa Sanchez, Fadza Bouyamed, que vous avez peut-être vu dans La Bâche. Tous ces jeunes-là, ils n'étaient pas dans le consumérisme, ils n'avaient pas envie de, euh, de faire des activités. Ils avaient envie de changer le monde. Et de, donc on a monté des auteurs contemporains, on a monté aussi beaucoup de choses autour de l'improvisation. C'était une aventure collective assez extraordinaire. Voilà.
Il existe dans la nature des plantes minuscules.
Il existe dans la nature.
Sauvages, aussi bien que cultivées, dont la particularité de naître, de se développer dans les fissures de pierre. Par leur simple insistance
et par leur impermissibilité.
Il faut un travail de terrain auprès des gens qui travaillent et qui vivent dans cette ville. Ça n'a pas été fait. Aubervilliers, c'est une diversité, diversité qui n'a pas été exprimée. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence des initiatives. Au moment du Ramadan, la mairie devrait organiser des initiatives pour montrer aux non-musulmans ce qu'est le Ramadan. Ça permettrait de vivre ensemble dans la différence. Les personnes se sentiraient plus responsables. Je m'interroge. Parfois, j'ai envie de partir.
Partir.
Partir. Je vois les débats théoriques face à l'ampleur de la dégradation de cette ville et j'ai envie de partir.
Partir.
Alors qu'il y a une vraie diversité, une vraie diversité, qu'il faut valoriser cette beauté. Alors je me demande pourquoi partir.
Partir.
Il faudrait une synthèse. Plein de gens veulent partir quand ils voient l'addition des problèmes qui rongent la ville. Moi aussi j'ai envie de partir si ça reste comme ça. L'ensemble des sciences sociales est lié à l'espace et au temps. L'être humain est comme un arbre avec des racines et des feuilles. Il y a le concept et la compréhension du concept. Les acteurs et la compréhension de la population. Il ne faut pas condamner la personne ignorante.
Ignorante.
Elle ne dispose pas des éléments pour les compréhensions. Il faut écouter, écouter, impliquer la population sur ses besoins. Qu'on ne dise pas simplement aux gens quoi faire. Qu'on ne dise pas simplement aux gens quoi faire.
Les loyers sont très chers sur Paris. On entend souvent parler du Grand Paris. Sachant qu'on est à la frontière, assez proche du 19e. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Partir les gens qui sont ici,
c'est
les entasser
partir les
dans
gens
la
qui
cité,
sont ici.
Les renfermer pour laisser place à d'autres
les
personnes.
Les entasser dans la cité.
La mixité sociale, elle peut être très très intéressante. Mais pas aux dépens. Comment dire ça? Il faut valoriser la mixité.
Valoriser la mixité.
Aux dépens des personnes qui sont les plus démunies.
Les plus démunies. Raser sans abîmer les souvenirs impérissables fabriqués ici, c'est difficile. S'agit-il vraiment de rénovation? L'abandon est trop profond depuis trop longtemps. Mais dans ces utopies mélangées, de belles histoires ont passé. Qui aime vraiment toujours y revenir. Les maires n'écoutent pas vraiment les gens.
Ils n'écoutent pas.
Ils ne prennent pas en compte les avis des gens. Si ça rentre dans l'intérêt de la ville, alors il faut les détruire. Mais il faut garder cette particularité de la ville. Ces immeubles, pour moi, c'est le symbole de la ville. Ils doivent les garder.
Alors, je vais essayer de suivre mon fil d'Ariane. Entre mémoire et culture, et passer la parole à Marine Lemaire et Muriel Cohen. Marine est artiste plasticienne, rédactrice pour l'Insatiable. Elle s'est chargée de rencontrer la belle équipe de la MULOP, l'association pour un musée du logement populaire. Et c'est aussi elle qui a mené des ateliers photos avec les habitants de la cité Émile Dubois. Photos qu'on peut voir là sur les panneaux latéraux de l'installation, les photos argentiques. Muriel Cohen, elle est historienne et coordinatrice du collectif AMULOP. Ce collectif, il est constitué d'enseignants du secondaire et du supérieur, d'historiens, d'historiennes, de sociologues, d'acteurs et actrices du monde de la culture et du patrimoine. Et donc, ils portent un projet, un beau projet du musée du logement populaire et plus généralement de l'histoire des banlieues. Nous les avons rencontrés au tout début de notre projet et bien évidemment on s'est vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de porosité dans nos recherches et dans nos travaux et voilà, on a souvent fait équipe commune notamment dans les ateliers, dans l'espace public et puis la MULOP nous a accueillis cette année très sympathiquement dans leurs locaux pour les enregistrements de nos podcasts. Marine et Muriel, je vous laisse la parole.
Bonsoir à tous. Du coup, j'ai pu rencontrer Muriel ainsi que deux autres acteurs et actrices de l'association AMULOP. C'était un entretien très intéressant. On a pu discuter des termes aussi qui sont aujourd'hui repris par les politiques comme le terme de migrant. Est-ce qu'on utilise plutôt migrant, immigrant, immigré ? On est aussi revenu sur les questions du logement. J'ai titré du coup l'article « De l'immatériel et de l'habité ». Parce que je voyais que du coup, dans leurs intentions, il y avait à la fois cette idée de se préoccuper des mémoires des habitants, du lieu, mais aussi de parler du logement en tant que tel, en lui-même, c'est-à-dire de manière vraiment matérielle. Comment les gens s'approprient un lieu. Par leurs recherches aussi, on a pu discuter des diverses manières d'habiter, c'est-à-dire Il y a des personnes qui utilisent leur logement simplement comme un espace pour dormir et manger, d'autres qui vont vraiment habiter l'espace autour de chez eux, c'est-à-dire qu'ils vont aussi aller dans les institutions, les commerces. On a aussi parlé des manières de sociabiliser. Voilà, je vais laisser Muriel développer un peu plus sur les intentions de leur exposition qui commence là en 2021. Voilà, je laisse la parole.
D'abord, merci aux allumeurs de nous avoir invités. C'est vrai qu'ils nous ont accueillis très chaleureusement sur un terrain qu'ils avaient investi quand même avant nous. Nous, on a un peu débarqué comme ça. Donc ça m'amène à raconter voilà, comment on est arrivé là, en fait. Comme l'a dit Marine, on est un collectif... beaucoup d'enseignants du secondaire, quand même, au départ, qui avaient un peu qui s'étonnaient du fait que dans des projets qu'on essayait de mener, souvent nos élèves, donc on était enseignants, enfin voilà, on est, pour certains, ils le sont toujours, enseignants dans des collèges ou des lycées du territoire, d'Aubervilliers, moi j'étais à Stains, d'autres à Saint-Denis. Et quand on essayait un peu de sortir du cadre voilà, du cours, des programmes, et de faire des projets qui racontaient l'histoire de leur quartier ou l'histoire de leurs parents, et de, voilà, pour leur faire prendre conscience du fait que l'histoire, c'est nous, quoi. C'est pas juste des gens très très loin, très très haut, très très importants. En fait, c'est les gens ordinaires qui la font. Et donc, quand on leur disait, vos parents, vos grands-parents, c'est eux qui ont fait l'histoire du XXe siècle, donc on racontait là. Ils nous disaient, mais non, c'est pas intéressant. Enfin, ils voyaient pas, quoi. Ils voyaient pas l'intérêt, ils voyaient pas l'importance. C'est vrai qu'on on a une sensibilité qui est celle de l'histoire sociale. Ça nous contrariait, quoi. Ça nous contrariait un peu. Et du coup, on a, au regard d'une autre expérience... eu l'idée d'un dispositif pour raconter l'histoire des quartiers populaires au XXe siècle et qui serait de s'installer dans un immeuble et de raconter l'histoire des vrais habitants de l'immeuble dans leurs murs et de à partir d'archives, puisque c'est notre travail, de raconter la vraie vie des gens. Et on s'est dit que ça serait une façon très incarnée, très vivante, de mettre l'histoire à portée des gens, l'histoire de gens comme vous et moi, c'est ça aussi, faire de l'histoire, c'est se demander comment les gens, ils ont vécu les événements, comment ils y ont pris part ou comment ils n'y ont pas pris part et pourquoi ils n'y ont pas pris part. Évidemment, la petite difficulté dans notre projet, c'est qu'il faut trouver des lieux où raconter l'histoire des gens, mais donc des lieux qui ont été habités. Et donc, ça fait, l'association, elle existe depuis 2014. Et donc, convaincre des institutions de mettre à notre disposition des logements ou d'anciens logements, c'est pas simple. On a commencé par aller dans des logements habités, chez des collègues, et à raconter l'histoire des anciens habitants. Mais pour que le projet prenne sens et pour qu'on puisse vraiment reconstituer, comme le disait Marine, nous, c'est aussi la matérialité qui nous intéresse dans le logement populaire, parce que ça dit beaucoup, effectivement, sur le manque de place, est-ce qu'il y a les équipements nécessaires ou pas. Tout ça, c'est important de le faire sentir. Et donc, il fallait trouver un lieu. Et donc, en février 2020, c'est la municipalité d'Aubervilliers, surtout l'OPH, qui a accepté de mettre à disposition quelques logements pour nous dans la barre Gros Perrin de la cité Émile Dubois. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à fréquenter les allumeurs dans la cité, parce que on débarquait un petit peu, il fallait aller à la rencontre des habitants, leur expliquer notre projet qui va pas non plus de soi, parce que souvent les gens ils nous disent pourquoi c'est pas très intéressant notre histoire, et nous on veut essayer de les convaincre qu'au contraire c'est très très intéressant et très important. Là où nos préoccupations se rejoignent avec les allumeurs aussi, c'est qu'on arrive justement dans ce contexte de la rénovation de la cité qui est très incertain. En fait, le quartier Mala du Bois, depuis la première étape de la rénovation urbaine des années 2000, il y a eu une première tentative de la municipalité à cette époque d'inclure Émile Dubois et la maladrerie dans un programme de rénovation. Ça n'a pas fonctionné. Et donc là, voilà, c'est la deuxième fois. Et cette fois, a priori, effectivement, le quartier va être concerné. Mais on ne sait pas vraiment sous quelle forme. Et pour les habitants, alors nous, maintenant, on est installés sur place. Effectivement, on a des locaux, on a nos bureaux depuis le mois de mars dans la cité. Et effectivement, on est face aux habitants. On leur parle le plus souvent possible. Et effectivement, on observe leur inquiétude. Les habitants ont plein d'interrogations et pour certains, ils ont très peur de ce qui va se passer. Et nous, on n'a pas beaucoup de réponses et on cherche un peu aussi notre place là-dedans. Et on ouvre donc, malgré tout, une exposition qui va durer 9 mois, donc dans la barre Gros-Perrin. Pour vous donner envie de venir, on a investi 2 appartements où on raconte vraiment la vie des anciens habitants dans des logements reconstitués des années 50 jusqu'aux années 2000. Alors il y a un appartement où on raconte vraiment l'histoire d'une famille qui a vécu dans le même logement pendant 50 ans. Et donc, à travers la vie de ces familles, on essaye d'envisager l'évolution du quartier et plus largement l'évolution du logement social et de sa perception, en fait. Et voilà, de cette espèce de moment un peu d'âge d'or qu'a raconté Carlos, qu'il a très bien raconté. Avec la volonté aussi de pas... Nous, on est beaucoup confrontés à un discours sur le « c'était mieux avant » auquel on ne croit pas trop. parce qu'on sait qu'avant, c'était dur aussi. Et effectivement, les Trente Glorieuses, c'était un moment où effectivement il y avait peut-être plus d'espoir dans l'avenir, mais il y avait aussi la guerre d'Algérie, il y avait la sortie de la Seconde Guerre mondiale qui avait laissé des traumatismes terribles. Enfin, c'était quand même pas toujours très simple. Et la désindustrialisation, elle a commencé tôt, hein, à Aubervilliers dès les années 60. On n'est pas là pour dire que voilà, pour reconstruire un passé non plus complètement mythifié. Et il y a un autre appartement où là on raconte l'histoire de 3 familles qui se sont succédées dans une cage d'escalier de la cité, dans la cage d'escalier numéro 7, et qui se sont croisées sans forcément se connaître. Et à travers ces familles, on revient sur des moments de l'histoire du quartier, de l'histoire de France. Et donc ça commence le 16 octobre si on s'en sort, si on arrive au bout.
Je pensais que c'était un point assez intéressant de votre manière de faire qu'on ne voit pas forcément beaucoup.
Ouais.
Il faut savoir en fait que les musées du logement, comme ils veulent l'investir et le créer, hein, ça existe depuis 2014 et ils y arrivent là. Ça existe dans les pays anglophones, mais en France, pas du tout. Et leur manière de faire, elle est assez intéressante. Enfin, tout ce que Muriel vient d'expliquer, c'est le lien à la micro-histoire, c'est le fait de partir d'histoires personnelle, singulière, pour arriver à une histoire plus grande, mais qui concerne aussi, du coup, toutes les questions des grandes métropoles. Enfin, c'est des questions qu'on va retrouver aussi ailleurs. Et ça aussi qui est assez intéressant, c'est que même en partant d'histoires personnelles de personnes ici, en fait, c'est des questions, évidemment, qui vont pouvoir toucher d'autres personnes. Et aussi, on n'a pas parlé de l'autre biais, mais c'est aussi d'aller contre les stéréotypes qu'il peut y avoir par rapport à la banlieue, de montrer aussi, comme tu le disais, une place importante donnée à chaque histoire de chaque individu, quoi.
Il y a la tante d'une fille qui s'appelle Kumba, qui vend des glaces à 20 centimes dans la cité. Sur le mur à côté de l'école Julio Curie. Il y a le goumang, ananas coco, fraises, bissap, kiwi banane, coco tout seul. Elle vend aussi les pastels avec une sauce trop trop bonne. Elle n'est pas là tous les jours, des fois elle vend chez elle. Elle met une chaussure devant la porte pour ne pas qu'elle se referme. Les gens viennent toquer et ils achètent des glaces.
J'ai toujours attaché de l'importance à mon appartement. Je me suis dit, je vais m'approprier l'appartement et le faire de façon à ce que l'on soit bien, qu'on ait envie de rentrer à la maison. Tout au début, j'en avais pas envie de rentrer chez moi, je vous assure. Dès que je sortais du métro et que je voyais cet immeuble, ça me glaçait le sang.
Glaçait le sang.
Maintenant, j'ai ma terrasse, j'ai mes fleurs. J'ai l'impression, ici, d'être dans une maison. Vous vous levez le matin. En été, vous entendez les petits oiseaux, vous avez la verdure. Mon appartement, je l'ai fait à mon image et franchement, je m'y sens bien, bien. La cité, on dirait que c'est juste un coin pour survivre. Une cité cosmopolite, cosmopolite, où on parle toutes les langues. Et maintenant, nous avons notre propre jargon produit de ce brassage linguistique.
Je ne m'y sens pas très à l'aise, personnellement. Je m'entends pas trop avec les gens d'ici. Pas les mêmes idéologies. Les gens jugent et je déteste les jugements.
Je déteste les jugements. Elle n'est plus sûre. Elle n'est plus sûre. Et très sale. Très sale.
Elle est trop géniale, ma cité. Je n'aime pas m'y asseoir car je suis pas fatiguée.
Un espace avec de la verdure. Un endroit où poussent ponctuellement de très jolies fleurs. De très jolies fleurs qu'il faut mettre dans la lumière, dans la lumière.
Salade. Anonyme et Madame L.
Wassim, Noam, Kimberly, Moussa, Issa.
Ronald, Caro.
Garo, Karim, Ous, Diego.
Matt, Sarah, 9 ans.
Catherine, 4 ans, son appartement.
La Fontanelle.
Fragments sensibles et politiques.